Bonjour, je suis Camille et je vous souhaite la bienvenue sur le podcast La Voix des Invisibles. Ici, on parle de ceux que l'on n'entend pas. Ici, on met en mots des parcours de travailleurs sociaux. Et ici, en toute simplicité, je leur donne la parole pour qu'ils puissent se raconter, nous raconter, par où ils ont commencé, par quoi ils sont passés, leur quotidien de travail, là ou les situations marquantes qu'ils ont accompagnées, le ou les publics pour qui leur engagement est plus fort, parce que oui, on a tous nos préférences. Qu'est-ce qu'ils retiennent de toutes ces rencontres humaines, leur avis sur le travail social d'hier et celui d'aujourd'hui, et bien plus encore. J'espère que vous trouverez ces parcours aussi inspirants et enrichissants que moi. Belle écoute à vous. Alan, il est diplômé moniteur éducateur. Après avoir traversé quelques expériences en France, il se rapproche de la Suisse. Dans cet épisode, il nous dévoile comment il a fait pour pouvoir enfin exercer dans ce pays après une année d'attente. Il nous expose ses conditions de travail, mais il nous fait aussi part de ce qui a pu le percuter dans les services français. Je vous laisse découvrir son parcours et son expérience de frontalier. Bonne écoute à vous. Bonjour Alan.
Bonjour Camille.
Merci d'avoir accepté mon invitation sur La Voix des Invisibles. Je vais te laisser la parole pour te présenter et nous dire ton âge, ta formation initiale et depuis quand tu es dans le social.
Alors merci à toi pour l'invitation, ça fait extrêmement plaisir. Donc j'ai 31 ans, je suis diplômé moniteur éducateur depuis 2016. Et ma formation, ben voilà, ma formation initiale, c'était ça.
Moniteur éducateur.
Exactement. Okay. Après, voilà, je fais pas mal de petits trucs à côté. Mais...
Ok, c'est ça la base de ton entrée dans le social, c'est.
Oui,
c'est
exactement.
Ça. Qu'est-ce que tu voulais faire toi quand tu étais petit?
Je suis pas très original, je voulais être footballeur professionnel.
D'accord.
Ouais, ça, c'est un rêve un peu inaccessible, j'ai l'impression. Pour beaucoup d'enfants.
Ok, oui, effectivement. Et du coup, qu'est-ce qui t'a amené dans le social?
Ce qui m'a amené, je dirais pas que je suis arrivé un peu par défaut. J'ai une famille donc qui est quand même très portée sur le social, avec ma mère qui est éducatrice, ma tante aussi. Et c'est vrai que j'avais suivi un cursus tout à fait différent à la sortie du bac. Donc j'étais en BTS commerce international. Après, j'ai fait un BTS en immobilier.
D'accord.
Mais les personnes que j'ai rencontrées, tout simplement, je me retrouvais pas forcément avec ces personnes-là, avec les valeurs qu'elles pouvaient partager. Et puis, je me suis un peu retrouvé au pied du mur. J'ai décidé d'arrêter donc ces deux formations-là. Un peu par défaut, ma mère m'a dit, t'as pas de travail, il y a des possibilité de partir en séjour adapté.
D'accord. Est-ce qu'on peut préciser peut-être ce que c'est les séjours adaptés?
Alors les séjours adaptés, c'est des, on va dire entre guillemets, des centres de vacances. En fait, vous partez pendant 2 ou 3 semaines l'été et vous accompagnez des personnes en situation de handicap dans un chalet, dans une région bien précise. Donc on vous donne un classeur avec, on va dire, les fiches correspondantes aux personnes que vous allez accompagner.
D'accord.
Un budget qu'on vous verse sur votre compte en banque. On vous laisse à disposition un minibus. Et puis, allez-y, hop, pendant 2 semaines.
Ok. Et comment t'abordes ça quand t'as jamais eu contact avec des personnes en situation de handicap ou en tout cas que tu débarques un peu dans ce monde-là?
Honnêtement, on n'aborde pas ça de façon très sereine. J'ai pas envie. Je voudrais pas faire peur à certaines familles ou à certaines institutions, mais il y a des personnes qui sont aussi là par défaut. Alors pour le coup, moi j'ai eu la chance de partir avec une amie que je connaissais et ça s'est très bien passé. Mais parfois il y a des binômes qui doivent se former. Des gens qui ne se connaissent pas, qui n'ont aucune affinité, et c'est là que ça peut aussi devenir dangereux. Parce que, typiquement, moi j'avais 21 ans, c'était ma première expérience dans le social, et ça s'est très bien passé, mais je pense que ça peut être tout autre.
Tu penses que c'est beaucoup de responsabilités, du coup, pour des personnes qui ne sont pas formées, ne sont pas alertes sur ce que représente, ce que peut représenter un handicap
Et puis, je veux dire, la maturité, c'est quelque chose de d'abstrait. Et puis elle arrive pas à tout âge. C'est pas quelque chose de on va dire qui est universel pour chaque personne. C'est-à-dire que moi, j'avais pas l'impression d'être mature à 21 ans. Cependant, on nous envoie, voilà. Alors, je vais donner des précisions. Hein. On était en Auvergne, donc avec mon ami. Je vais donner aussi un exemple. Un soir, on accompagnait 6 personnes en situation de handicap qui sont accueillies dans des foyers d'hébergement à l'année. Et de ces 6 personnes, il y a une personne qui se met à tousser du sang un soir. Donc là, on appelle les pompiers.
D'accord.
Et les pompiers viennent et on se trouve dans la situation qu'il faut aussi l'accompagner au CHU. Mm-hmm. Donc il y a ma collègue qui se détache et qui l'accompagne. Et moi, je reste avec les 5 autres résidents.
Est-ce que vous étiez que 2, du coup ?
On était que 2.
D'accord.
On n'était que 2, c'est là un peu la dangerosité de la chose. 21 ans, sans expérience.
Ouais, tout seul, avec seul. Du coup 5 personnes.
5 personnes qui ont pour habitude d'être accompagnées par des éducateurs.
Ouais, ok. Voilà. Donc première expérience un petit peu, ouais, t'as tout de suite été mis dans le bain très rapidement, quoi.
Mais pour autant, ça m'a pas démoralisé, moi j'en ai retiré, vraiment des choses positives, très formatrices. Voilà, j'en tire pas des faits négatifs, et puis ça me donne envie d'aller voir la mission locale, s'il y a des possibilités d'obtenir des stages ou d'autres expériences dans des structures pour personnes en situation de handicap. Et de ça, voilà, je découle des prestages durant 2 ans dans un établissement pour enfants et adolescents polyhandicapés.
D'accord.
Et ce qui me motive encore plus à passer mes concours... Et entrer à l'IRTES.
Ok, voilà. Donc tu rentres à l'IRTES en quelle année ?
Je rentre à l'IRTES en 2014.
D'accord, et tu choisis quoi comme formation ?
Moniteur éducateur.
Ok.
Après, j'étais un peu dans une impasse. Financièrement, et puis j'avais aussi envie de rentrer dans la vie active assez rapidement. Alors, je dis pas que j'ai fait ce choix par facilité, mais c'est vrai que j'envisageais plus d'être rapidement prêt et puis d'être rapidement sur le terrain. Et je me voyais pas faire 3 ans pour être éducateur spécialisé ou être JA.
Est-ce que, du coup, sur tes prestages, tu avais vu un petit peu la différence entre moniteur éducateur, éducateur spécialisé, et que ça t'a permis peut-être aussi d'affiner ton choix
Oui, parce qu'il y avait, les 3 postes principaux, donc AMP, moniteur éducateur et éducateur spécialisé. Et l'éducateur spécialisé, il avait plus ce rôle de coordinateur finalement, parce qu'on travaillait sur des petites équipes. Il y avait 4 groupes, donc les 4 groupes étaient chapeautés par un coordinateur qui était éducateur spécialisé, qui eux étaient chapeautés par le chef de service, direction ensuite. Mais eux, ils avaient vraiment ce rôle d'animer les débriefs de journée, les réunions hebdomadaires.
Donc, AMP, faut qu'on précise, c'est aide médico-psychologique. Ok. Éducateur spécialisé, on parle d'ES en général. Et moniteur éducateur, on peut faire le raccourci en disant ME.
Il y avait aussi des aides-soignantes et des infirmières.
Ok, donc c'était quand même un lieu qui était assez médicalisé.
Oui, ouais. C'était des personnes, des enfants et des adolescents polyhandicapés. Donc on était sur un accompagnement qui nécessitait beaucoup de soins.
Donc finalement, tu te dis, je fais 2 ans de formation moniteur éducateur. C'est vrai que faut qu'on le précise, mais la formation d'éducateur spécialisé ou d'éducateur de jeunes enfants, c'est 3 ans. Et parfois, suivant la situation en amont de la formation, pour le financement notamment, on peut se dire qu'on privilégie 2 ans de formation parce qu'on pourra être à un moment donné financé par Pôle emploi dans le cadre d'une reformation, d'une reconversion, etc. Et c'est vrai que ça joue beaucoup. dans les personnes, j'imagine que dans ta promo en tout cas,
oui.
C'est moi j'ai déjà eu des retours comme ça de personnes en formation de moniteur éducateur qui m'ont dit ouais, c'est que 2 ans en fait.
C'est ça.
Donc c'est 2 ans où tu vis avec à peine 900 € par mois. T'es en formation, la deuxième année tu touches que 600 €.
Exactement.
Donc faut que t'assumes une vie voilà étudiante avec des stages souvent pas forcément sur place sur ton lieu de vie, donc tu bouges un
Exactement.
Petit peu. Donc voilà, raccourcir de 2 ans et puis finalement peut-être refaire une VAE, une validation des acquis par l'expérience après, c'est souvent l'option qui est privilégiée, effectivement. Ok, qu'est-ce que t'en retires toi de tes 2 ans de formation du coup, dans ton centre de formation, que ce soit en termes de stage, en termes d'apport théorique, en termes de rencontres que t'as pu faire?
Ça m'a, on va dire que ça m'a aidé à être un peu plus tempéré dans mon activité et puis dans ma façon de penser aussi. C'est-à-dire que bon, je venais de mettre un pied dans le social, assez jeune en plus, bon, un peu révolté, un peu contre la façon que les gens ont de considérer un peu les personnes en situation de handicap, la façon dont les gens peuvent nous regarder quand on va en ville. Et c'est vrai que moi, tout ça, ça faisait que je remettais pas mal en cause le système, en gros. Et sans être dans l'extrémisme, hein, clairement pas, mais... Mais voilà, une vision un peu, voilà, un peu négative. Et c'est vrai que ça m'a appris, ces 2 ans de formation, à prendre du recul par rapport aux situations. Et puis se dire, bon ben voilà, il y a... fais-en ton métier, forme-toi, et puis contribue à faire changer le regard des gens, finalement. À travers mes stages, et puis après voilà, forcément qu'il y avait aussi des apports théoriques, on va dire notamment en termes de droit et puis en termes de psychologie et puis en termes d'accompagnement éducatif avec des techniques éducatives aussi. Mais
Tu t'es senti investi de quelque chose en arrivant en formation, de l'ordre du changement? T'avais envie, en tout cas, que les regards changent, de faire parler un peu de notre profession différemment et des publics aussi, qu'on ait un autre regard sur les publics?
Oui, c'est ça, en fait. C'est que... que ce soit le handicap, que ce soit l'exclusion, que ce soit la protection de l'enfance, c'est des populations qui sont plus ou moins oubliées dans l'inconscient des gens, parce que peut-être que, je sais pas pourquoi, peut-être que ça fait peur, peut-être que ça... personne n'aurait envie de se trouver dans cette situation-là. Enfin, qui souhaite avoir un enfant en situation de handicap? C'est quelque chose qu'effraie beaucoup les gens. Donc finalement, c'est des choses auxquelles, on va dire, la grande majorité des gens n'ont pas envie de penser, et du moins quand... Et la difficulté, c'est... Alors c'est mon point de vue, hein, mais j'ai l'impression que quand ils se retrouvent confrontés à ça, face à eux, face à une personne en situation de handicap... Bien sûr que je généralise, mais il y a beaucoup de personnes qui sont qui ont un regard,
qui sont gênées un petit peu.
Ouais, qui peuvent être gênées, qui peuvent être, alors dans l'extrême, qui peuvent avoir parfois un peu de négligence, mais qui vont fixer, qui vont se dire, mais c'est quoi, c'est, la différence de toute façon, elle pas elle choque, mais voilà, elle amène à avoir un regard différent, et puis à se poser des questions, finalement. Et du coup, je me suis dit, mais pourquoi on en arrive à se poser ces questions, finalement? Parce que ces personnes qu'on accompagne, elles sont comme vous et moi.
Bien sûr.
Qui peut prétendre ne pas souffrir d'un handicap dans n'importe quel contexte, finalement?
Bien sûr. Oui, il n'y a pas que le handicap qu'on voit.
Il n'y a pas que le
handicap qu'on voit.
Et ça, c'est vrai que le regard de ces personnes, mais après, avec le temps, on apprend aussi à faire abstraction de ça, finalement. Puis on les voit plus, ces regards.
On les voit, ok. Est-ce qu'il y a des rencontres qui ont compté pendant ta formation?
Oui, ben comme toujours, même encore maintenant. J'ai pas forcément de nom en tête, mais c'est vrai que c'était des collègues de promo, de formation. Alors, oui, si j'ai des noms en tête, je sais quelles personnes ont compté pour moi dans ces moments-là. Mais
Pourquoi elles ont compté du coup? À quel moment elles se détachent un peu du lot?
ben parce que justement, c'était des personnes souvent plus âgées et puis qui, elles, m'ont appris justement à me détacher en fait de trop plein d'indignation qu'il pouvait y avoir en moi et puis vraiment voilà comme je disais tout à l'heure à tempérer les choses et puis à me dire ouais, bon ouais ça existe bon c'est comme ça on ne pourra pas faire autrement mais toi contribue à
D'accord.
et puis voilà tu te retrouveras là-dedans.
Est-ce que tu aurais une situation qui t'a marqué positivement ou négativement pendant tes 2 ans de formation qui t'a fait peut-être justement mettre un peu en exergue ce que tu avais appris ou peut-être une situation qui t'a permis de déconstruire un peu tes représentations ou enfin je sais pas, toute situation que tu as.
C'était principalement sur le deuxième stage de deuxième année.
T'étais dans quelle structure?
Alors, c'était dans une MEX dans le territoire de Belfort. Elle a fermé d'ailleurs parce qu'il y a eu beaucoup de soucis
D'accord.
là-bas.
Donc une
Il n'y a
MEC,
plus
c'est une maison d'enfants
une
à
maison
caractère
d'enfants à caractère
social.
social,
Ouais.
pardon, où on
Non,
accueille
non,
des
pas de souci.
jeunes ben voilà, qui sont placés donc par le juge des enfants et qui sont accompagnés par l'aide sociale à l'enfance. Et du coup, pour moi, c'était un choc. Je voulais absolument passer par, entre guillemets, cette case-là, ce genre d'institution, parce que je voulais y être confronté et je pouvais pas, personnellement, je pouvais pas me dire, je sors de formation et j'ai pas été voir ce qui se faisait dans la protection de l'enfance. Pour moi, mon cursus, il aurait été inachevé. Donc, je fais mon stage de deuxième année et la formation initiale que je faisais, elle était à Dijon. Donc là, je suis dans le territoire de Belfort parce que c'est un territoire, mais enfin, c'est un département dans lequel j'ai habité pendant plusieurs années. Et je suis hébergé chez un ami qui lui, est prof, enfin, et maître des écoles dans un quartier, donc dans une zone REP plus.
Ok, donc c'est les quartiers politiques de la ville où il y a un renfort, enfin un renfort, un petit peu plus, en tout cas des classes un petit peu
Exactement, qui sont allégés en termes
allégées.
de nombre d'enfants accueillis. Et donc c'est vrai qu'on faisait le parallèle le soir quand on rentrait sur nos situations. C'est vrai que ça m'avait marqué, mais une situation concrète qui m'a marqué, c'est que dans cette institution, un jour, je suis arrivé et je vois. En fait, c'était une ancienne maison de maître dans laquelle c'était un foyer de jeunes filles exclusivement, puisque les filles étaient dans cette maison de maître. Plus loin, il y avait une aile détachée pour les garçons du même âge, hein, donc entre 14 et
C'était
17
une
ans.
volonté de l'institution de ne pas
Volonté,
mélanger
exactement.
les filles et
Alors,
les garçons.
le projet tendait à ce qu'il y ait mixité, hein, ensuite, ouais, sur les 3 ou 4 ans qui allaient arriver. Et en fait, il y avait une troisième aile pour les enfants plus petits, et là, c'était une aile mixte, par
D'accord.
contre. En l'occurrence, je faisais mon stage dans l'aile fille. J'arrive un matin et je vois un tas de débris, de meubles entassés au milieu de l'accueil,
Cassé du coup,
cassés,
ouais.
cassés. Et donc je monte et puis je prends les infos auprès de mes collègues qui me disent bah, hier soir, les filles ont pété un plomb. Et en fait, la maison de maître était sur 3 étages, c'est-à-dire qu'en bas, il y avait l'accueil avec les bureaux de la direction. Premier étage, il y avait déjà des chambres avec cuisine. Et troisième étage, c'était les filles qui étaient un peu plus autonomes, qui avaient entre 16 et 17 ans, qui étaient, on va dire, sur un processus de réorientation ou même de quitter
De
plus ou moins
départ prochain,
exactement.
ok.
Et en fait, les filles ont pété un plomb, avaient pété un plomb la veille et avaient tout balancé, tout ce qui leur passait sous la main, donc les meubles, tout ça. C'était une expérience qui était compliquée parce que je me rappelle aussi compliqué mais formatrice, mais parce que c'est vrai que c'était des filles qui, quand elles pouvaient pas sortir, elles n'hésitaient pas à casser la porte du bureau et sortir par la sortie de secours pour aller rejoindre des personnes très, comment dire, malveillantes, je sais pas si c'est le mot.
Avec
mais
une influence voilà, pas très positive.
Exactement, elles étaient à la limite de la prostitution parce qu'il y avait des problématiques liées à l'addiction aussi. Donc c'était ultra, ouais, c'était compliqué. C'était compliqué, cependant, j'ai eu la chance d'avoir une éducatrice qui m'a énormément formé, qui m'a beaucoup accompagné, qui m'a plus ou moins laissé, bon, enfin qui m'a laissé aussi le champ libre de découvrir ce que c'était aussi, de la violence au quotidien, et puis avec qui je pouvais reprendre, et ça a été très formateur pour moi.
C'était une belle rencontre pour toi,
cette, ouais,
c'était ta vraiment, référente du coup.
Ouais, non, c'était vraiment une belle rencontre pour moi, et c'est vrai que ça pour moi, ça a été ouais, formateur, et puis au moins, je savais que je pouvais sortir de ma formation avec un bagage assez conséquent.
Voilà. Ok, c'est important.
Oui.
Effectivement.
Mais pour en revenir aux apports de la formation, je dirais que les apports, ils ont plus été sur le terrain que théorique.
D'accord. Toi, t'as plus ressorti, t'avais besoin en fait de comprendre comment ça fonctionnait pour le, sur le terrain pour...
Il me fallait du concret pour mettre en application ce qu'on pouvait apprendre.
Ok. Donc clairement. Pour toi, les stages étaient très appréciés et appréciables, en tout cas.
Ben, c'est ça. Après, il faut quand même aussi préciser que le social, c'est quand même un domaine qui est très vaste. On a la possibilité d'intervenir dans plusieurs champs d'action. Mmh. Donc finalement, 2 ans de formation, c'est, je ne dirais pas qu'on survole, mais clairement, quand on arrive à la fin de la formation et puis qu'on doit postuler quelqu'un, quelque part... mis à part peut-être la personne qui travaille dans une institution depuis plusieurs années, impossible de dire qu'on connaît le fonctionnement par cœur d'une institution ou même de l'accompagnement d'une certaine population.
Oui, c'est vrai que c'est en 2 ans, c'est très court,
c'est
mais
très court.
Ça donne en tout cas des apports théoriques, un petit peu d'outils pour pouvoir intervenir. On a eu quelques éclairages sur les problématiques et après, moi, je me dis toujours que quand les étudiants sortent de formation, quand on est sorti de formation, on avait encore un boulevard à apprendre et
exactement.
On apprendra tout au long de notre parcours, en fait, parce qu'à partir du moment où on change d'institution ou change de public, on recommence presque à zéro. On a des réflexes, on sait mieux aborder les gens, créer du lien, mais on sait pas tout, il y a tout un pan de la problématique du public qu'on ne connaît pas, et je te rejoins là-dessus, effectivement.
Exactement.
2 ans, c'est quand même assez court.
Ben, on a une vision globale.
Voilà.
Pour avoir une vision précise, il faut des années.
Oui, je suis d'accord. Oui, ouais, bien sûr. En sortant du coup diplômé, moniteur éducateur,
oui,
quel choix tu fais, vers quoi tu t'orientes?
Je m'oriente vers la protection de l'enfance, justement.
Ok.
Parce que j'avais envie de retourner, de parfaire mon expérience par rapport à ça, de pas rester sur une expérience choquante, entre guillemets choquante. Je veux dire, après, toute institution a son fonctionnement, mais et c'est vrai qu'en stage, j'avais vécu des situations complexes, et je voulais pas rester là-dessus et me dire, de toute façon, la protection de l'enfance, ça va être trop dur. Ou inaccessible, ou avec des situations très complexes tous les jours. Et donc, je repars en protection.
Ouais, tu avais quand même envie de t'investir dans ce
champ-là,
parce que tu y mettais du
bien
sens.
Sûr. Et puis, c'est vrai que j'aimais beaucoup travailler avec les ados, parce que c'est des discours, des activités qu'on peut faire avec eux, c'est plein de choses aussi qui me plaisaient beaucoup, et puis qui m'ont décidé à m'orienter.
Donc tu t'orientes un petit peu tes recherches plus sur des maisons d'enfants à caractère social,
mm-hmm,
aussi,
mm-hmm,
j'imagine, et puis sur une tranche d'âge plutôt ado, du coup.
Oui, c'est ça.
Ok.
Plutôt ado, 14-16 ans, si je dis pas de bêtises. J'avais aussi la chance de pouvoir y retrouver un collègue de promo, un ami
D'accord.
Qui... considérais beaucoup. Et non, c'était top aussi d'avoir, de pouvoir aussi échanger avec lui à ce moment-là. Et puis de parfaire aussi ma post-formation avec
ouais,
lui.
Ta posture en tout cas de ouais, moniteur éducateur, de compléter. Et effectivement, quand on connaît déjà un peu quelqu'un, ça rassure.
Exactement.
Toujours. Ok. Est-ce que tu, pareil, est-ce que dans ce secteur-là, t'as fait pas mal de contrats, il me semble. Enfin, voilà, t'as vu pas mal d'institutions, pas mal de services. Est-ce que t'as fait des rencontres qui t'ont, pareil, un peu éveillé, un peu...
C'est vrai que ouais, j'ai enchaîné les remplacements, on va dire pendant 3-4 années, alors pas forcément dans la même structure. C'est assez inconfortable et assez précaire, parce que c'est vrai qu'au début de la formation, c'est difficile de pouvoir trouver un emploi stable directement. Et puis finalement, moi je crois que j'avais pas envie d'être rattaché à une institution précise. J'avais toujours envie de me laisser le choix de me dire au moment où j'ai envie de partir, parce que c'est quand même relativement éprouvant comme métier, ça peut l'être, psychologiquement ou même physiquement. J'avais pas envie de me dire bon, bah là, je suis en CDI et finalement. Ben, je suis bloqué ici, et puis bon, je vais me cantonner à mes 5 ou 6 semaines de vacances, et puis à mes récup, et j'avais pas envie de ça. C'est-à-dire que j'avais envie aussi de pouvoir faire des pauses quand je le souhaitais, à la fin de certains contrats, pour me dire, ben là, hop, on stoppe, on souffle, et puis on repart avec les idées claires, et ouais, avec un nouvel entrain. Je pense que c'est important aussi de pouvoir se renouveler de cette façon, et puis pas être continuellement la tête dans le guidon, parce que ça nous permet aussi, je pense, c'est mon avis, hein, mais d'être plus objectif par rapport aux situations, finalement.
Et puis effectivement, avoir un regard neuf un petit peu. Et...
C'est ça.
Ok. Est-ce que tu as rencontré, toi, des situations éprouvantes qui t'ont amené à avoir un petit peu ce fonctionnement-là, en fait, de
ouais,
te laisser le choix des pauses.
Il y en a une qui m'a profondément marqué. Pardon. Donc là, j'étais sur un accueil de 16-18 ans, sur un accueil d'urgence. Et on était sur de l'accompagnement dans des appartements locatifs. Donc du coup, ça a été compliqué pour moi, parce que à 17 ans et 364 jours, bon, enfin, on fêtait l'anniversaire du jeune, trop bien, voilà, en fait, c'était 18 ans, c'est top. Et le lendemain, ces personnes-là, on devait les accompagner. Dans une structure, ben, si le projet était construit, on les accompagnait dans une structure viable. Et par contre, si la personne avait mis plus ou moins, soit si elle avait mis son projet en échec, ou si le travail des professionnels autour n'avait pas été efficace, eh ben, y avait très peu de portes de sortie, donc c'était centre d'hébergement. Et ça, quand...
Centre d'hébergement d'urgence, du coup, c'est le 115.
Oui. Et quand vous êtes amené à accompagner un jeune avec ses affaires, qui sait pas forcément où il va, puis qui sait pas forcément ce qu'il va faire sur le lendemain, et que la veille vous fêtiez son anniversaire très hypocritement,
ça t'a fait un peu
ça vivre. Pour le coup, ben, on rentre chez soi et puis on remet un peu tout en question, et puis on se dit mais est-ce que c'est vraiment ce que j'ai envie de faire finalement? Et ouais, ça m'avait marqué. Il y avait une autre situation aussi qui m'avait marqué. C'est que on était donc toujours dans cet accueil d'urgence. Donc forcément qu'avec l'accueil d'urgence, on a un nombre de places à justifier auprès de l'ARS pour avoir les financements. Et sauf qu'en étant sur du locatif... il y a des jeunes qui sont, on va dire, dans l'incapacité de vivre dans un groupe et qui peuvent mettre à mal ce groupe, surtout quand on va dire que ce groupe est quand même se connaît et puis qu'il y a des affinités dans ce groupe. Il suffit des fois, parfois, qu'il y ait un grain de sable dans l'engrenage, et puis voilà. Et ça a été le cas à un moment donné, par une décision qui avait été prise par un chef de service, qui était un chef de service temporaire, qui décide d'accueillir un jeune qui avait été accueilli en PJJ, qui était en PJJ, donc...
Protection judiciaire de la jeunesse.
Exactement.
Okay.
Et qui avait ensuite été en rupture de parcours,
Et qui vous arrive du coup sur l'accueil
Et qui arrive sous prétexte qu'on a besoin de remplir la structure.
Ok.
Voilà.
C'est ce qui vous a été. C'est comme ça que ça vous a été présenté. En gros, on a ce profil-là et il faut qu'on le prenne parce que là, on a de la place.
Ben, à partir du moment où vous avez trois jeunes qui sont partis avec un projet qui était viable et puis que vous avez trois places libres. On ne vous le dit pas directement, mais vous le comprenez quand même assez rapidement. Mmh. Et donc, ce jeune, alors, sans jugement de valeur, on l'accueille très bien. Et donc, les deux premières semaines se passent très bien. Donc, on met le projet en place. Et puis, petit à petit, commence un peu à déconner... On apprend qu'il est dans certains faits de délinquance, encore, et qu'il continue à l'être. Dans le groupe, ça se passe de moins en moins bien. Et du coup, notre chef de service permanente, qui était en formation 2 semaines sur 4, je crois, qui n'avait pas pris la décision de l'accueillir, on en parle avec elle, en lui élaborant les faits. Et elle prend la décision... au moment du jugement, de se positionner sur... Enfin, tout simplement de dire que c'est pas un jeune que l'on peut accueillir sur une structure locative avec des appartements... avec des gens qui habitent sur les appartements en dessous, voire au-dessus, et que c'est très compliqué.
C'est un immeuble, en fait, d'habitation, c'est ça ?
Exactement, c'est okay. Un immeuble d'habitation.
Et où vous aviez quelques logements ?
Exactement. Deux logements avec quelques chambres, et puis okay. Les jeunes étaient relativement autonomes, sauf qu'il y a un voisinage à respecter, il y a toutes ces choses. Et il faut quand même que les jeunes ils soient... respectueux de l'environnement dans lequel ils vivent, et puis...
Peut-être déjà dans une certaine autonomie, du coup.
Exactement.
Ok, et là, c'était pas le cas de ce jeune qui...
Mais c'était pas le cas, mais après, c'était malgré lui aussi, j'ai envie de dire. Je pense que s'il avait eu, dès le départ, une structure qui était adaptée pour lui, ben, ça aurait été tout autre. Sauf que, bon, ben là, voilà, il y a des actes et des faits de délinquance, petit à petit, qui viennent, de l'irrespect par rapport aux voisins, tout ça. Donc, ça, c'est des choses qu'on relate à la chef de service, et au moment venu du jugement, ben, elle avance que le fait qu'il puisse vivre dans ce genre de structure est incompatible avec son profil. Donc, le jeune, lui, ben, il vrille. Il revient malgré tout sur la structure. Il faut dire qu'on avait les deux derniers appartements de l'immeuble, avec un accès sur le toit et un accès sur une terrasse qui entourait. Et donc, il se cache sur le toit jusqu'à temps que des collègues se rendent compte qu'il était là. Et au moment où ils se rendent compte qu'il est là, ben voilà, lui proteste. Non, je partirai pas. Je reste là. Je vais le voir. Et il redescend donc du toit. Donc on se pose sur la terrasse. Et moi, je ne sais pas trop ce qui se trame. Et finalement, il commence à se mettre dans une colère noire, à me raconter tout ce qu'il a vécu, tout ça. Et on voit une voiture de police qui débarque, une deuxième qui se gare en bas de l'immeuble. Et là, il comprend assez rapidement que c'est pour lui, Je comprends aussi rapidement que c'est pour lui, parce que je savais pas, j'étais pas au courant de ce qui se passait.
Ouais, hein, avec, t'étais avec lui, du coup.
J'étais juste avec lui. J'étais juste avec lui et donc bon, on voit ces deux voitures de police qui. Et là, il vrille complètement. Il commence à écumer, donc à avoir la barre autour de la bouche, à faire les 100 pas. Alors qu'il était relativement posé, alors relativement, hein, on s'entend, mais juste avant. Et puis, les policiers sortent de la voiture, et là, ils commencent à dédaler la terrasse.
Ok, il prend des morceaux de...
Il prend des morceaux des dalles de la terrasse, et a menacé les policiers de les lancer sur la voiture du 5 ou 6e étage, s'ils partent pas.
Et toi, t'es à côté ?
Moi, je suis à côté. Là, autant te dire qu'il n'y avait aucun moyen de le raisonner.
Oui, ok, c'était trop tard.
C'était trop tard. Dans ces cas-là, tu t'es un peu... voilà, qu'est-ce que je fais ? Bon. Jamais, moi, je me suis senti menacé à ce moment-là. Parce qu'il y avait quand même un lien de confiance qui s'était installé. Mais pour autant, je pouvais plus rien lui dire. Là, c'était même plus possible. On l'entendait plus.
Mm-mm.
Il était dans un état second. Moi, j'avais jamais vu quelqu'un comme ça. Et donc, les policiers font plus ou moins marche arrière. Bah, là, ils commencent à acheter certaines dalles. 2, 3. Du 6e étage. Qui atterrissent pas forcément très très loin des voitures de police. Donc, les voitures de police vont se garer plus loin. Là, on voit un camion de pompiers qui arrive avec l'échelle. Pareil, ils menacent les pompiers de lancer les dalles sur le camion s'ils déploient l'échelle. Donc finalement, les pompiers passent par l'immeuble, montent dans l'immeuble et commencent à dialoguer avec lui, sauf que là, ils ne voulaient toujours rien entendre. Et si tu veux... ça paraît interminable. Hein. Ça dure 2 heures. Hein.
C'est, ah, ok. Ouais, c'est ce que j'allais te demander.
2-3 heures, hein, okay. Honnêtement. Hein.
En temps, est-ce que ça représentait 2-3 heures.
Ça dure 2-3 okay. heures. Et puis finalement, les pompiers, ça ne marche pas. Et à un moment donné, je ne sais plus si c'est un collègue ou un chef qui vient me chercher et qui me dit « Bon, ben là, tu laisses tomber, tu descends sur le groupe. » Et en descendant sur le groupe, je vois des policiers dans le couloir, mais avec les casques, avec les boucliers de protection. Voilà quoi.
Ouais, ok, c'est violent là.
Un attirail incroyable. Je me dis, qu'est-ce que je fais là ? Et puis là, ça joue au chat et à la souris, entre les balcons, entre les policiers et le jeune. Et finalement. Je vois le jeune repartir avec les policiers menottés. Et ça, voilà, clairement, au début, bon, la première semaine, je dis ouais, ça va aller. Très bien. Puis finalement, je crois que mon contrat se termine 10 jours après, je renouvelle pas. Et je crois que je reste 3-4 mois au chômage. Puis je dis c'est bon, c'est mort, j'arrête.
C'est toi finalement qui te mets un bouclier de protection.
Ouais, bah là, non, finalement. Mais là, franchement, c'était trop. Est-ce que j'ai envie de cautionner ça ? Est-ce que j'ai envie d'assumer les erreurs de certaines. Bon, enfin, les choix qui ne sont pas les nôtres. À un moment donné aussi, on est formé, on est diplômé. Il faut peut-être aussi qu'on puisse nous accorder une certaine confiance dans les décisions qui sont prises aussi, et puis dans les choix qu'on émet. Je pense que, oui, forcément qu'il faut des personnes pour prendre ces décisions. Ces personnes-là, elles ne vont pas forcément être toujours d'accord avec nous. Malgré tout, je pense qu'on a un regard objectif sur les situations, puisqu'on vit le quotidien avec ces jeunes. Et est-ce que des fois, on ne peut pas aussi nous voir accorder un peu plus de confiance par rapport à nos propos, par rapport à nos rapports, par rapport à tout ça ? Accorder un peu plus de confiance. Donc, voilà, moi, c'était ça. C'est ce qui m'a... Voilà.
Tu t'es dit, la protection de l'enfance, je fais une pause, quoi.
Pas forcément la protection de l'enfance, mais je me suis dit, là, c'est trop. Ouais.
T'as ressenti...
Je prends un pas de recul.
Ouais.
Je prends du temps pour moi.
Ok. Tu disais que tu à aucun moment tu t'es senti en danger. Est-ce que même quand tu redescends, tu te sens pas en danger? C'est pas forcément une exposition, enfin une mise en danger que tu as ressentie, mais c'est en tout cas une comment dire, une
Ben, en fait, quand je dis j'ai pas ressenti de mise en danger, c'était quand j'étais avec le jeune,
Ouais.
pas de mise en danger, j'ai pas ressenti de mise en danger physique avec ce jeune.
Mais du coup,
Mais
tu t'es quand même senti mis en danger par les éléments que tu avais relevés, qui n'ont pas
pas
forcément
sur le
été
coup.
considérés.
Pas sur le coup, il faut que ça retombe à chaud. On se dit oui, ben voilà, c'est ci, c'est ça, on n'aurait pas dû faire ci, on n'aurait pas dû faire ça. Et puis en fait, après, avec du recul, on se dit, mais en fait, psychologiquement, c'est là que je suis en danger le plus, quoi. Et j'aurais pu l'être aussi physiquement, finalement. Même
Effectivement,
si on ne le
ben,
ressent pas sur l'instant,
non,
parce
sur le moment.
que voilà, il y a la confiance du jeune, voilà, y a tout ça.
Ok,
Mais.
quel choix tu fais après cette expérience? Du coup, tu restes un petit peu off, et
Ouais.
ensuite, vers quoi tu te diriges?
Alors, je reste un peu au chômage, effectivement. Et puis, personnellement, en fait, je projetais de pouvoir partir pour des raisons alors, familiales, voilà, de concubinage. Voilà, je projetais de partir aux abords de la Suisse pour rejoindre mon ex-compagne qui est suisse aussi, ben, enfin qui est suisse. Et justement, voilà, je me dis, bon, ben, là, c'est le moment.
C'est le moment de
Ouais,
concrétiser
c'est le
un
moment de
projet
concrétiser, puis de
perso.
partir,
Ok.
et puis d'aller à la frontière, et puis voir ce qui se passe un peu. Donc j'arrive, alors j'arrive pas avec mes gros sabots, hein, clairement, je me dis, je vais déjà trouver un travail en France, avoir une petite situation, et puis après, une fois que je serai un peu ancré dans le paysage, ben, à travers, donc je décide de m'inscrire aussi dans un club de foot en Suisse, et puis. Ben voilà, essayer de comprendre la culture, essayer un peu de m'imprégner de tout ce que peuvent me dire les gens par rapport à ça, par rapport au domaine du social, et puis essayer de, voilà, de faire des rencontres qui
Bien
peuvent
sûr.
aussi m'amener peut-être un jour
À travailler en Suisse,
à
du
travailler
coup.
en
C'était
Suisse,
ça l'objectif.
effectivement. Oui, alors c'était pas un objectif, pour moi, c'était pas un objectif financier, hein, qu'on soit clair par rapport à ça. J'avais déjà travaillé en fait de façon temporaire en Suisse avec une association qui s'appelle Coup de pouce, qui était mandatée par l'autisme suisse romande pour effectuer des stages, pas des stages, pardon,
Séjour adapté.
des séjours adaptés. Merci. J'en perds mes mots. Des séjours adaptés où on accompagnait des enfants autistes, enfin des enfants avec des troubles du spectre autistique, pardon, durant une semaine, mais en un pour un.
Ok.
Et ces conditions de travail,
Tu t'y retrouvais.
qui étaient incroyables, je me dis, mais c'est pas
Ouais.
possible, en fait, on est en un pour un, j'ai jamais vu ça, moi. Je m'y retrouvais, et puis je voulais voir un peu ce qui se faisait aussi, si vraiment il y avait plus de moyens qui pouvaient être mis en place qu'en France, ou pas.
Dans quoi tu t'y
Mais
retrouvais? Dans quoi tu t'y retrouvais dans le 1 pour 1, par exemple? Qu'est-ce qui faisait la différence pour toi?
c'est-à-dire qu'on se consacre pleinement à l'individu, finalement. Et quand en France, on est référent de 5, 6 enfants, 6 adolescents. Bon, après, il faut aussi dire que il y a des particularités chez chaque personne qui peut-être, hein, nécessitent aussi un accompagnement individuel, qu'on se le dise. Mais pour le coup, là, sur ces séjours adaptés, c'était pas toujours le cas. Donc, bon, enfin, les enfants qu'on accueillait, ils nécessitaient pas forcément toujours un accueil un pour un, mais c'était la politique de l'association. Donc, ouais, moi, j'avais trouvé ça incroyable parce que c'est vraiment, voilà, focalisé sur le jeune. Sur ses besoins, sur ses demandes, sur ouais, sur voilà, être là pour voilà, pour
Quand
lui.
on accompagne un enfant, un jeune qui a des troubles du spectre autistique, j'imagine que ça c'est Marion de l'épisode numéro 4 qui me l'a appris, qui me disait on a besoin de connaître toutes ses habitudes, on a besoin de connaître tous ses besoins, toutes ses réactions, toutes les stimulations un peu émotives qu'il peut ressentir et comment réagir à ça pour l'accompagner correctement, parce qu'il y a des choses qui peuvent lui faire violence qui pour le reste du groupe ne les atteindra même pas, et lui ça peut le faire effectivement partir en crise, et après c'est quelque chose de très lourd à gérer pour le groupe. Ce que te permet le 1 pour 1, c'est ça aussi, c'est de connaître parfaitement la personne que t'accompagnes.
C'est ça. Alors même si c'est sur, c'est très bref parce que c'est une semaine. Donc là, on peut pas prétendre à faire du travail éducatif. C'est vraiment du travail de moniteur, de l'accompagnement. On est vraiment, pardon, on est vraiment là de façon pour faire en sorte que les enfants ils passent une semaine de vacances au mieux. Ouais. En sachant que toutes les personnes qui viennent aussi travailler sont pas forcément formées ou dans le domaine du social.
Ok.
Donc je veux dire, donc c'est aussi peut-être la nécessité d'être en un pour un. Bon, enfin c'est ce qui et c'est vraiment voilà être focalisé sur ce jeune. Pendant une semaine. Alors évidemment, pour les au bout de 2-3 jours, on switch, hein, c'est-à-dire qu'on change de référence.
D'accord.
sur les moments formels, c'est-à-dire que on peut découper la journée en moments formels et en moments informels. Moment formel, on va dire moment d'activité. Donc entre 10h et 12h, là il y a des switch, on change. Par contre, sur les moments de repas qui sont des moments on va dire très concret pour le jeune, là on reprend les références comme elles le sont depuis le début, parce qu'on peut dire que c'est des moments charnières pour les jeunes, et même après les moments d'activité, sur les moments de soirée, le coucher, les moments de repas, là aussi on a un accompagnement avec notre référé.
D'accord.
Ce qui est important pour le suivi du jeune, et puis pour pas le déstabiliser.
Donc
aussi, par rapport à ces choses-là.
Ok, donc tu as une première approche des camps, des séjours adaptés en France, puisque ta première expérience finalement, c'est ça, où vous êtes 2 pour 6 avec un chalet où on vous dit vous allez là, un minibus et tu pars. Tu as l'expérience suisse, du coup, des séjours adaptés, où vous êtes plus en 1 pour 1 et...
C'est même plus qu'un pour 1, parce que finalement, on est en 1 pour 1, plus un responsable et un co-responsable, plus 2 cuisiniers.
D'accord. Et vous êtes combien de personnes que vous accompagnez?
Ouais, ça dépendait des groupes d'enfants, mais si on partait à 10 groupes d'enfants, bon, enfin avec 10 enfants ou 12 enfants, ben voilà, il y avait déjà 12 moniteurs, plus les deux correspondants, ouais, on partait à 16 pour 12.
Ok, ouais, c'était effectivement d'autres moyens.
D'autres conditions,
okay, ouais, d'autres clairement. Conditions
c'est ce qui m'a aussi motivé voilà, à vouloir me rapprocher de la Suisse par rapport à ça.
D'accord.
Et à me dire, quand même une différence, hein, notable.
Du coup, on va en parler parce que l'objet de notre rencontre aussi, c'était que tu puisses éclairer un petit peu sur comment ça se passe en Suisse. Et on va commencer par le parcours pour postuler. Donc, tu nous as expliqué un peu ta stratégie, entre guillemets, c'était de te rapprocher de la frontière.
Oui, c'était ça. Mais c'était, après, je le faisais aussi, puisque j'étais en couple avec une Suissesse. Donc, du coup, je le faisais... vraiment par parce que j'avais envie de découvrir le milieu du social en Suisse, mais aussi de façon personnelle, donc voilà, m'a poussé à le faire.
Donc t'as allié les deux finalement,
exactement.
Et une intégration dans le perso, tu disais je me suis inscrit au club de foot pour me faire un peu des connaissances, etc. et dans le travail, du coup, comment t'as fait pour mettre un premier pied dans le travail?
Alors, le premier pied, je l'avais déjà parce que les séjours adaptés, je les ai commencés quand j'étais en formation et ça, j'ai toujours continué à en faire.
D'accord.
Donc, ça faisait déjà 4 ans que je continuais à en faire. Et en parallèle, je gardais, malgré mes expériences, je partais quand même le week-end, parce que ça m'apportait autre chose, finalement.
Tu faisais des séjours adaptés que de week-end?
Il y avait la possibilité de participer à des week-ends, okay, et des séjours d'été aussi. Okay.
D'accord.
C'était un échappatoire que de... Alors, pas un échappatoire, non. C'était une possibilité aussi de voir autre chose, et puis d'avoir... justement une autre vision que celle que je pouvais avoir au quotidien en Mex,
d'accord,
où je travaillais à temps plein à ces moments-là. Donc je faisais ça encore en parallèle, et puis au fur et à mesure, au fil du temps, donc j'ai commencé en tant que moniteur, et ensuite co-responsable, et ensuite responsable sur ces séjours adaptés. Donc j'avais déjà une base en Suisse que je pouvais...
Une base de connaissances un petit peu.
Oui, c'est ça. Puis dans l'autisme, finalement, parce que quand après, au bout de 6-7 ans, avec des séjours et des week-ends répétitifs, on commence à avoir une certaine connaissance. Je me dis, je vais trouver un travail en France, et puis après, je vais quand même essayer d'envoyer quelques CV.
En France, mais proche de la frontière, du coup.
Proche de la frontière, du coup, oui.
Parce que là, aujourd'hui, on peut le dire, du coup, personne qui nous écoute, on est à côté de la frontière suisse.
Tout à fait.
Vraiment à côté.
Dans un village franco-suisse. On ne peut pas faire plus proche.
Oui, c'est ça. On regarde par la fenêtre et on voit la Suisse.
Je ne sais plus où j'en étais.
Et du coup, tu commences tu postules en France.
Oui. Non, en fait, je trouve rapidement... Non, j'étais toujours à Dijon, donc... Quand je postule à un endroit proche de la frontière suisse, donc je suis pris, et puis c'est ce qui va déclencher mon départ de Dijon, finalement, et qui va m'amener dans cette institution médico-professionnelle qui reste pour moi une incroyable expérience. L'objectif était quand même pas que j'y reste, parce que mes objectifs personnels étaient vraiment de pouvoir rejoindre la Suisse, et puis, des raisons personnelles, j'en garde un excellent souvenir. Je fais 7-8 mois quand même là-bas.
Qu'est-ce que tu retiens de positif? Qu'est-ce qui était positif, en tout cas, dans ton expérience?
C'était une structure qui était extrêmement bien géré.
Ok.
Ouais. En termes d'organisation, de tout, en fait, rien n'était laissé au hasard.
Ok.
Et je pense que, autant pour les employés que pour les personnes accueillies, c'est ultra rassurant. Parce que le fait d'avoir... quelque chose comme ça, où tout est carré, tout est structuré, c'est vrai que ça apporte un certain confort dans le travail qui vous évite de tout remettre en question, finalement. Donc après, vous avez uniquement à vous focaliser sur le travail et l'accompagnement des personnes que vous accueillez.
Okay.
Et ça, c'est un luxe.
C'est ça que tu trouvais positif?
Moi je trouvais ça ultra positif. Le cadre, en plus, c'était magnifique. C'était une ancienne abbaye qui était réaménagée. Les extérieurs étaient aménagés aussi par les jeunes qu'on accueillait,
okay,
par les profs qu'on avait. C'était vraiment magnifique. C'était incroyable, ouais. Mais je me vois proposer un CDI dans cette institution... Et je suis obligé de refuser, parce que mon objectif n'était pas là. Et donc je refuse, et je me dis, j'intensifie les recherches en Suisse, et Covid. Confinement. En Suisse, donc les frontières sont fermées, hein, donc elles sont accessibles uniquement aux travailleurs frontaliers.
Ok. Donc toi, tu restes du coup à la frontière.
Oui, exactement. Je reste à la frontière sans emploi, puisque je venais de le quitter juste avant. Je n'avais pas renouvelé mon contrat. J'envoie des CV.
Alors, est-ce que tu peux nous, Tu m'as montré avant, donc je triche un peu sur ma question. Mais quand tu postules en Suisse, apparemment, tu n'envoies pas juste un CV, une lettre de motivation.
Non, que ce soit sur des candidatures spontanées ou sur des candidatures sur des postes bien précis, je me suis constitué un dossier que j'ai mis en page, que j'ai, voilà, avec donc mon CV, ma lettre de motivation, mes lettres de recommandation, mes notes, les notes que j'avais pu avoir au diplôme, les différents diplômes que j'avais pu avoir aussi en tant qu'éducateur de foot. Il y a beaucoup de choses.
T'as un CV qui est aussi, quand tu m'as montré tout à l'heure, j'ai vu, c'est assez élargi en fait. Enfin, mm-hmm. Tu fais pas un CV d'une page en notant juste les expériences que tu penses le plus importantes à mettre en avant pour l'institution. Là, tu es très large au final sur ce que tu as fait. Ta lettre de motivation, elle est très conséquente aussi. Mm-hmm. Ça, c'est des conseils qu'on t'a donnés avec les connaissances que tu t'es faites en Suisse.
Non, pas forcément. C'est... Alors, on m'a dit que... on m'avait dit que je pourrais à aucun moment prétendre à quoi que ce soit si j'envoyais juste une lettre de motivation. D'accord. Et un CV.
Ouais, ça, c'est clair. Donc, on t'avait briefé sur le fait que...
Ben, de toute façon, oui, c'était ça. Je pense que c'est quand même un pays qui attire pas mal de convoitises finalement, mm-hmm. Par l'aspect financier et puis qui peut représenter moi ce que je trouve plus ou moins malheureux. Après voilà, je peux pas m'en plaindre parce que je participe à ce fonctionnement là aussi, mais voilà, ça attire les convoitises, donc forcément la personne qui vient un peu légère et puis en dilettante, ouais. Sur, et puis en prétendant pouvoir travailler là, je pense qu'elle se trompe.
Et du coup, ouais, tu trouves qu'il y a une exigence assez élevée, en tout cas sur le recrutement, les candidatures que vous devez formuler.
C'est compliqué à dire. J'ai pas envie de m'avancer sur quelque chose que je maîtrise pas. Je suis pas dans le domaine des RH. Alors du coup, c'est pas simple à dire. Mais c'est vrai qu'on m'avait dit, voilà, espère pas décrocher quelque chose si tu vas juste avec.
D'accord, donc toi tu suis ce conseil-là.
Donc je suis ce conseil-là et puis je transmets tous les documents que je peux transmettre finalement.
D'accord, tu fais combien de candidatures ?
Bon, je dirais bien... Alors après la période était compliquée, je sais pas si... Si là... Alors pas post-Covid, mais là je commence à postuler juste après le confinement. Hein, donc là on était encore... Voilà, vraiment dans une situation sanitaire qui était très complexe. Mais j'envoie une vingtaine, trentaine de dossiers.
D'accord.
Sans décrocher un entretien. Okay. Je vais dans des agences intérimaires. On me dit que... Bon, enfin, on me fait comprendre clairement qu'il faut peut-être que j'oublie l'idée de postuler parce que c'est un domaine où beaucoup de personnes y sont formées, dans lequel beaucoup de personnes sont formées, et que finalement, j'aurais certainement pas ma chance.
D'accord. Comment tu vis ça ? C'est un peu rude comme discours.
C'est un peu rude comme discours, mais finalement, moi, j'ai toujours marché un peu avec ce dicton, là, patience et persévérance. Et j'oublie. Je continue et je me dis que finalement, je suis certain que le moment va venir. Et je me dégonfle pas, je continue à envoyer des dossiers, à regarder un peu tous les jours les postulations qui peuvent se faire, et puis à postuler, et puis à voir si mon profil correspond ou pas, ou même si mon profil ne correspond pas finalement, j'abdiquerai pas. J'ai oublié de préciser qu'il faut aussi une équivalence pour travailler en Suisse.
Ok, voilà. C'est intéressant. Du coup, c'est quoi que c'est ? Tu dois faire quoi ? Tu dois repasser
L'équivalence moniteur éducateur, il suffit de justifier de certaines, de nos années d'expérience. Alors, on va sur un site internet. Hein, c'est un organisme qui gère ça. Ça s'appelle le CEFRI. Et donc, on va sur internet. On justifie de nos expériences. On justifie de nos diplômes. Il faut envoyer le diplôme qui est certifié authentique. Il faut plein de documents. Verser une somme aussi d'argent.
Tu peux nous dire pour ceux que ça intéresse à peu près combien ça représente ?
C'est 300 francs, je crois.
300 francs suisses.
Ouais, 300 coup. Francs suisses, okay. Ouais. Donc, quasi, ouais, 300 euros.
Presque, ok. Ouais.
Et donc, oui, il faut verser cette somme, et je sais plus où j'en suis.
Bah, du coup, tu passes par un organisme qui certifie ton, oui, ton diplôme, tu verses 300 euros, et du coup, tu as ton équivalence comme ça.
Oui, oui, c'est ça, j'ai l'équivalence, j'avais oublié de le préciser, mais... Ouais. Et donc, du coup, bah, par rapport aux postulations, donc je lâche pas, finalement. Jusqu'au jour où... sortie de l'hiver, il faut aussi dire que les hivers sont très compliqués. Les hivers durent 6 mois ici. Non, pas 6 mois, j'abuse un peu. Mais ils durent, ouais, du mois de novembre au mois de mars, il faut s'attendre à tout. Okay. Voilà. Donc 5 mois minimum. Et on a même eu de la grêle et puis un peu de neige en juin l'année dernière, c'était sympa. Mais voilà, petite aparté. Non, et pour le coup, c'est vrai que l'hiver, il était rude. Et là, je me dis, j'en ai marre de vivre ici, finalement. Moi, c'est pas quelque chose qui me plaît. Et je crois que j'ai envie d'aller rejoindre des amis dans le sud de la France. Mais je vois une dernière annonce pour un poste d'accompagnement auprès d'enfants autistes. En un pour un aussi, justement, une nouvelle structure qui ouvre.
Okay.
Ça part de zéro, hein, donc tout est à faire. Et ils recherchent beaucoup de collaborateurs. Et je dis, bon, c'est mon dernier CV, puis après, voilà.
C'est ta dernière candidature.
Dernière et candidature, après. Et si elle est négative, je pars. Donc j'envoie le CV, il se passe un mois ou deux. Et pas de nouvelles. Mon préavis était déjà rédigé, tout. J'étais prêt à l'envoyer. J'ai ma mère au téléphone, toujours très juste et toujours de bons conseils, qui me dit non, ben avant d'envoyer ton préavis, t'appelles la fondation. Ce qui paraît logique, mais après, quand on rentre dans un schéma de se dire j'ai pas de nouvelles, ben, c'est bon.
Bah, on est un peu découragé après, bien exactement, sûr. Après 25-30 candidatures, on peut se dire c'est qu'effectivement, ça. On a plus le discours des agences d'intérim qui te disent n'espérez rien. Voilà. Bon, bah, effectivement, on peut être un peu découragé, oui.
Donc, du coup, bon, je me dis j'envoie le préavis, puis oui, ma mère me rattrape au vol, elle me dit non, mais tu appelles la fondation et puis tu vois. Donc j'appelle, et puis là, je tombe sur la secrétaire qui me dit « Ah, mais si, on vous a envoyé un courrier il y a une semaine, vous allez le recevoir, donc vous êtes convié à un entretien avec le directeur et le directeur adjoint. » Voilà, bon.
Premier entretien.
Ouais, premier entretien que je décroche sur toutes les postulations que j'avais pu faire. Donc gros soulagement, hein, beaucoup d'appréhension. Je me rappelle que je passe un week-end, un week-end, une semaine, à bosser sur l'entretien, peut-être même à aller un peu trop loin et à m'imaginer toutes les questions possibles du monde.
Mais tu dis, j'ai un entretien.
Exactement. Mais
en
j'ai
25 candidatures, je mets le paquet.
Exactement. Donc, et surtout que je retrouve les conditions de travail que j'avais pu avoir quand j'avais été... j'avais pu avoir sur coup de pouce, sur les camps, et avec une population que j'apprécie grandement par la spécificité qu'elle nécessite en termes d'accompagnement, en fait.
C'est ce que j'allais te demander, pourquoi... déjà, une première question, c'est est-ce que, du coup, toutes tes candidatures que t'envoies, ça reste dans le champ du handicap ?
Oui, parce qu'en Suisse, le diplôme de moniteur éducateur est considéré comme, c'est équivalent à ASE, assistant socio-éducatif. Et l'assistant socio-éducatif peut travailler avec des enfants en bas âge, peut travailler dans des EHPAD et peut travailler avec les personnes en situation de handicap, mais pas dans le champ de la protection de l'enfance.
D'accord, ok. Donc toi, tu cibles le handicap pour cette raison, mais est-ce que aussi c'est un champ qui t'attire, dans lequel en tout cas tu as envie de t'engager réellement ?
On va dire que c'est le champ d'action dans lequel j'ai eu Alors, pas le moins de traumatisme, parce qu'on ne peut pas parler de traumatisme, mais dans lequel ça a été, on va dire, voilà, ou dans lequel j'ai eu les expériences. Ouais, les plus joyeuses, les plus valorisantes, je sais pas, mais voilà, où je me sentais finalement le mieux, parce que être confronté quotidiennement à la violence, c'est bon,
Là,
c'est pas
tu
drôle.
t'étais pas confronté à des formes de violence.
On est confronté à des formes de violence, si. Mais en fait, si je peux revenir là-dessus, par rapport à la différence qu'il peut y avoir, c'est que dans le handicap, il faut quand même souligner qu'il y a en France, hein, notamment, beaucoup plus de moyens qui sont mis en place. Et donc la violence, elle est pas que, elle provient pas que des jeunes. La violence, je pense, pour moi, hein, c'est mon avis personnel, c'est très subjectif, mais la violence, elle est aussi institutionnelle, elle est aussi sociétale.
Dans d'autres champs que le handicap, tu veux dire?
Ouais. Dans d'autres champs que le handicap. Pour moi, c'est un problème qui est profond. C'est-à-dire que quand on n'a pas les financements, quand on est obligé de justifier tout de A à Z, quand on est à deux éducateurs pour 7-8 enfants le soir, bon, enfin sur des soirées, même sur des matinées, il faut quand même dire que dans la protection de l'enfance, on accompagne des jeunes qui ont des troubles d'attachement ou qui ont d'autres troubles finalement qui les amènent à pouvoir être en confrontation ou qui les amènent finalement voilà à être dans des besoins très spécifiques auxquels deux éducateurs ne peuvent pas répondre sur une soirée ou même sur une semaine même sur mais c'est et en fait c'est cette négligence-là de la part des régions, de la part ouais, de l'État, de la part de tout ça, en fait, c'est cette violence-là, en fait, moi qui m'a démoralisé, qui m'a dit, en fait, j'ai plus envie de ça. En fait, les conditions, elles sont pas optimales pour que un éducateur se sente épanoui dans ce qu'il fait.
Parce que toi, tu ressentais du coup une forme de frustration du travail pas accompli, de la mission en tout cas qui t'était donnée
Exactement.
pas
Moi,
accomplie.
je fais mon travail parce que je l'aime. Enfin, j'aime faire ça. C'est une vocation pour moi. Même si, au début de l'entretien, je pouvais dire que je suis arrivé un peu là par hasard. Mais finalement, je me suis vite rendu compte que c'était ma place. Que c'était là que j'étais le plus accompli. Et me rendre compte de ça, finalement, c'était, ouais, un choc pour moi. Et je me suis dit que je ne remettrai plus les pieds dans la protection de l'enfance tant que, les conditions, que ce soit financière, que ce soit humaine, que ce soit matérielle, n'étaient pas réunies pour qu'on puisse accompagner les jeunes dans la dignité. Et ça l'est pas à l'heure actuelle. Moi, je préfère, je. C'est la façon dont je le ressens.
Ouais, c'est ta vision et
C'est ma
la façon dont
vision.
tu l'as
Peut-être que
perçue.
certains éducateurs me diront le contraire. Ça ouvrira un débat, c'est cool. Mais pour autant,
C'est
voilà.
intéressant de débattre effectivement de cette question.
Mais voilà.
Donc du coup, on en était, pardon, je t'ai fait faire un
Ouais,
détour,
pardon.
mais
Ouais, petit détour.
sur ton entretien que tu préparais, tu passes l'entretien et qu'est-ce qui se passe?
Je passe l'entretien. L'entretien se passe vraiment bien. Le directeur me dit, on vous redit la semaine prochaine. Voilà, on a encore des postes à pourvoir. À combien de pourcents est-ce que vous souhaiteriez travailler, tout ça? Je lui dis que moi je suis à la disposition voilà, de l'institution. Et finalement, donc oui, il me dit, je vous redis la semaine prochaine. Et en fait, j'avais un mail le lendemain qui me disait, vous êtes engagé à 80%. Donc le taux, le pourcentage maximum pour cette institution, parce que en termes de pénibilité du travail, on ne peut pas atteindre 100%.
Ok, 100%, ça représente combien d'heures?
42 heures
En Suisse, c'est
par
42 heures
semaine,
de
ouais.
travail par semaine.
Exactement.
Donc là, en étant toi à 80%, tu effectues combien d'heures?
35 heures,
35
donc
heures.
l'équivalent d'un 100% français.
Ok. Et tu t'y retrouves, toi, du coup, dans
Ouais.
cette prise en compte de la pénibilité du travail, dans ce 35 heures, alors, si on va plus loin dans la mise en place de ce nouveau service, dans les profils des jeunes que vous accueillez, dans.
Ben, déjà, bon, il faut dire qu'en termes de loi du travail, c'est différent. Hein. C'est-à-dire que là, dans les institutions suisses, vous pouvez très bien travailler jusqu'à 23 heures et reprendre à 7 heures le lendemain.
D'accord.
Donc ça,
Donc t'as quand même, ouais, il y a, bon, ok, il y a du.
y a des, voilà, y a des différences assez notables, voilà, qui faut prendre en compte. Et bon, faut pas négliger aussi, parce qu'en termes de fatigue, des fois, on peut aussi être quand même relativement poussé dans ses retranchements. Pour autant, là, c'est pas le cas dans cette institution.
D'accord. Donc en fait, tu décroches le poste.
Et du coup, oui, je
tu,
décroche le
on a
poste.
Oublié de le préciser, mais
ouais.
tu décroches le poste et c'est pas par défaut que tu y vas.
Ah non, pas du tout. Non, non, parce que j'étais sur un poste. J'étais sur un poste dans un CESAD avant, mais c'était encore un poste précaire parce que c'était un remplacement que
Ok.
j'effectuais. Et finalement, voilà, le travail en CESAD me convenait, mais je m'y retrouvais pas forcément parce que c'était énormément d'administratif. Et moi, j'ai quand même énormément besoin d'être dans l'accompagnement au quotidien, d'être avec les jeunes. Et puis, et ça, pour moi, c'était. Et voilà, comme je disais, c'était important pour moi de pouvoir travailler avec les enfants
En
TSA.
direct.
Les enfants, ouais, non, mais principalement les enfants TSA. Et puis, et voilà, comme je disais, la spécificité que ça peut demander en termes d'accompagnement.
TSA, du coup, trouble du spectre
C'est
autistique.
ça.
Ok, c'est le raccourci qu'on peut
Ah,
faire.
oui.
Ok, non, t'excuses pas, c'est ok. Ok, et ça fait combien de temps du coup que tu es dans cette institution?
Là, ça fait. On a commencé au mois de juin. Donc on a commencé aussi. Donc mois de juin, ça fait 8 mois. On a commencé de zéro, c'est-à-dire qu'on n'avait aucun meuble, on n'avait rien. Et c'est l'équipe dans son entièreté qui a été formée assez rapidement, qui a dû voilà tout est, bon, fait équiper toute la maison aussi.
Ok.
On est sur une maison de 3 étages aussi. Donc en fait c'est bah, pour un peu. Imager un peu voilà, la chose, c'est-à-dire qu'on accueille des jeunes qui étaient en rupture de parcours dans des institutions, puisque les institutions n'étaient plus en capacité de leur assurer un accompagnement en un pour un. Si vous voulez, c'était des jeunes qui étaient à la maison 24 heures sur 24, 365 jours par an. Donc avec d'énormes souffrances pour les parents, parce que c'est des personnes qui ne sont pas formées, c'est des personnes qui n'ont pas de relais, qui n'ont pas de répit, si ce n'est quand les enfants dorment, et encore quand ils n'ont pas des troubles du sommeil associés. Donc voilà, c'était primordial pour le canton, et notamment pour la Suisse romande, de pouvoir une structure qui pouvait accompagner ces jeunes. Donc on part de zéro, on construit tout, donc c'est un lieu ultra sécurisé sur 3 étages. Donc premier étage, donc cuisine, salon, salle de jeu. Deuxième étage, les chambres. Et troisième étage, l'école, parce que c'est aussi un lieu.
Ok, il y a une école sur place.
Tout à fait. C'est un accueil, voilà, un établissement scolaire en gros, mais avec internat.
Avec internat.
Mais dans un cadre très familial, très. Voilà.
Vous accueillez combien de jeunes?
Alors là, actuellement, on en a 3, et mardi, donc 1er mars, mais je pense qu'on ne sera pas diffusé le 1er
Non,
mars,
effectivement.
on accueillera un quatrième.
D'accord. Et vous montez à combien en tout? 4, c'est le
4, c'est le
maximum.
maximum. En capacité, dans cette structure-là, c'est 4. Il y a un projet de la maison de l'autisme, d'ailleurs, si des personnes qui nous écoutent veulent aller financer le projet. La fondation cherche des fonds, puisque là aussi, c'est assez paradoxal, mais le canton accepte de financer tout ce qui va être. Comment dire, accepte de donner des dotations pour payer les éducateurs, payer les prix de journée, payer tout ça, mais il n'accepte pas qu'on puisse. Ben, il n'accepte pas de payer les bâtiments, tout simplement,
D'accord.
pour accueillir les personnes.
Et c'est ce que tu me disais quand on a préparé l'entretien, c'est que tout fonctionne via les cantons. Donc, c'est-à-dire
Exactement.
que tu as un canton qui peut fonctionner d'une façon et le voisin d'à côté peut
On peut
fonctionner
fonctionner
complètement différemment.
différemment, oui. Alors,
Ok.
mais c'est bon.
C'est un fonctionnement interne en Suisse, du
Oui,
coup.
alors après, voilà, je suis pas une pointe hein, dans ce domaine, donc je peux pas encore vraiment voilà, vraiment gouffrer dans le sujet, okay. mais c'est comme ça que ça se passe. Et du coup, la fondation est à la recherche de 15 millions de francs de dons
okay.
pour pouvoir ouvrir cette structure.
Ok. Voilà. Et donc là, vous allez bientôt accueillir quatre enfants, le quatrième. Vous êtes combien de professionnels pour ces quatre enfants ?
On est 13 éducateurs. Il y a 2 enseignantes. On attend une 3e enseignante. Et bon, après, voilà, il y a des personnes qui gravitent aussi autour. Une logopédiste, une ergothérapeute. Et puis voilà.
Ok. Plus du coup des membres de la direction,
oui,
j'imagine, sur place. Ouais. Ok. Donc ça fait une 20aine de professionnels,
mm-hmm.
en gros. Ok. Pour quatre personnes. Jeunes, ouais. Ok.
Il faut quand même voilà préciser que c'est jeune. Bon, ils ont des troubles du comportement associé. Ils ont voilà, c'est des jeunes qui la plupart sont non verbaux. Il peut y avoir beaucoup de violence aussi. Quand il y a incompréhension d'une situation pour le jeune, voilà, un sentiment, voilà. Donc, mais pas que, hein, je veux dire, voilà. Donc, on peut avoir affaire à des crises très fréquemment, ce qui amène aussi ce nombre de
oui,
professionnels gravitant autour de ces enfants.
Mais ok. Est-ce que tu t'y retrouves, du coup, toi, dans cette institution ?
Ouais, moi, pleinement, ouais.
Ouais, ouais, ouais. T'as atteint ton objectif, du coup, d'allier...
Ouais, c'est... Je sais pas si j'ai atteint un objectif, mais je suis accompli.
D'accord.
Dans ce que je
tout
fais.
Tout en équilibre dans
ouais,
ce que
ça.
Tu fais.
On est régulièrement formés par rapport à des questions sur l'autisme, par rapport à l'accompagnement... que ce soit dans les tranches, enfin dans les âges, dans plein
le
de choses.
Le développement des troubles,
exactement,
etc.
Voilà. Okay. Et ça, c'est pouvoir profiter, enfin, profiter, non, j'ai pas envie de parler de notion de profit, mais pouvoir prendre part et assister à ça, ouais, c'est ça, ça m'accomplit grandement.
Bon, voilà. Super. On termine du coup sur une note objective, hein, positive, je
positive,
veux dire.
Oui.
Et ça, c'est cool. Je vais te poser les 3 petites questions de la fin. Si tu avais la fameuse baguette magique, qu'est-ce que tu ferais ?
Ben, je ferais en sorte que... je dirais pas... Je voudrais qu'il y ait un budget illimité pour le social, finalement. Mais du moins qu'on arrête de devoir tout justifier, de devoir... comment dire ? Mais finalement, que le social en France soit plus considéré. Tout simplement, qu'il y ait des moyens qui soient à la hauteur de ce que ça nécessite et de ce que ça mérite aussi. Que ce soit dans l'accompagnement des enfants, que ce soit ça, et que en plus, bah, que finalement, on puisse les accueillir dignement, qu'on puisse leur proposer, ouais, autre chose que, je dis pas, il y a forcément des structures qui ont voilà, un élan positif, et puis
oui,
qui font
des
choses incroyables,
pour qu'ils se passent
voilà,
bien, effectivement.
Voilà, je voudrais que ça soit la même chose dans toutes les structures finalement. Et puis,
une forme d'équité.
Ouais, en termes d'équité. Et puis vraiment, qu'on puisse voilà, avoir la possibilité, qu'on donne la possibilité aux éducateurs de faire vraiment ce qu'ils ont envie. Et puis voilà, de leur donner la possibilité de travailler dans les conditions dignes de ce nom.
Ok.
Pour moi, ça n'est pas forcément toujours le cas.
Très bien. Si tu devais faire quoi d'autre ? Comme métier, comme qu'est-ce que tu projetterais de faire ?
Je pense que je resterai aussi dans l'éducatif, mais dans le foot, ça occupe déjà pas mal de mon temps aussi là. J'aurais surtout envie que on ait une image différente de ce qu'on peut avoir. Du football parce que ça véhicule tellement de valeurs et puis tellement de choses que les personnes qu'on voit à la télé le dimanche soir ou pendant la Coupe du Monde, tout ça, font oublier plus ou moins ces valeurs, parfois, aux gens, ben, je veux dire, à la personne qui regarde un ou deux matchs par an, ou qui va entendre des scandales sur Messi au Panama, tout ça, j'ai envie de lui dire que le foot, c'est pas ça. C'est pas que des millionnaires. Non, mais voilà. J'essaye aussi de. Parce que ça aussi, pour moi, c'est une vocation. Et je trouve que c'est une école de la vie.
Et t'aimerais que l'image change.
Et que, ouais, j'ai envie que dans l'inconscient des gens, ils se disent pas le foot, c'est juste des millionnaires qui courent après un ballon, quoi. J'ai envie qu'ils pensent que, qu'ils sachent qu'il y a des valeurs qui sont transmises derrière tout ça, malgré les parents qui gueulent à côté du terrain, malgré. voilà, il y a de ça.
L'invité précédent, t'as posé une question, et toi, après, tu auras la liberté d'en poser une au prochain. La question qu'elle t'a posée, c'est: qu'est-ce qui vous passionne le plus dans votre travail ?
C'est déjà d'être dans un travail qui est en constante qui est en constant changement, c'est-à-dire que qui est pas répétitif, où je fais jamais les mêmes choses. Je travaille avec de l'humain aussi. Et ça, c'est bénéfique, parce que je pense qu'il n'y a rien de plus bénéfique sur Terre que d'être dans la relation humaine, finalement, d'être avec les gens, de pouvoir parler, de pouvoir échanger. Et surtout, ce qui m'accomplit, c'est...
passionne le plus.
Ce qui me passionne le plus aussi, ben c'est de pouvoir répondre aux besoins, aux nécessités de certaines personnes qui en ont elles-mêmes pas les capacités. Et ça, je pense que c'est important de pouvoir le souligner, en fait. Et à travers ça, je pense que ça me laisse le sentiment de contribuer à quelque chose de positif sur Terre, finalement.
Ok, voilà. Merci en tout cas pour cette réponse.
Alors après, ça... certains pourront peut-être se dire que ça flatte mon ego. C'est pas le cas. Non, il n'y a pas que ça derrière.
Ok. Je te laisse du coup poser ta question au prochain invité.
Le prochain invité, j'aimerais savoir s'il avait une ou plusieurs idées qui permettraient aux travailleurs sociaux d'avoir plus de reconnaissance en France.
Voilà. Ça marche.
Et ailleurs même.
Et je lui poserai ta question.
Merci beaucoup.
Merci Alan pour ce témoignage. J'espère que ça pourra éclairer les personnes qui se questionnent un peu sur le travail en Suisse, sur comment ça se passe et comment on y accède.
Merci à toi pour l'invitation.
À bientôt.
À bientôt. If you think you're alone, you're not the only one. If you think you're alone, you are wrong. Because what you defend is a gift in your hand. You just have to be proud, say it clear and loud. Because what you defend is a gift in your hand. Just have to be proud, say it clear and loud. Invisible voice for unstoppable choice.